des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission autour du désir, de ses métamorphoses avec trois auteurs, Léonore de Récondo, William Marx et Charles Danzig, qui l'interrogent, ce désir, le mettent en scène et en œuvre dans des configurations moins normées qu'habituellement dans la littérature, et c'est tant mieux. Avec eux, il sera en effet question de changer de sexe, de langue genrée, d'interroger la possibilité d'un gay savoir, à moins qu'il ne s'agisse que d'un savoir gay, mais aussi de mieux cerner les gestes du désir dans un vorace désir de gestes. Bonjour Léonore de Récondo.
Bonjour.
Vous étiez venue pour Amour il y a 2 ans, je crois.
Oui, quelque chose comme ça.
Où il était question d'un amour doublement transgressif au début du XXe siècle entre une jeune bonne de 17 ans et sa patronne. Et vous venez de recevoir le prix des étudiants France Culture Télérama pour votre roman Point Cardinal, qui est publié aux éditions Sabine Vespizère. Un roman qui nous plonge dans la tête et le corps de Laurent, père de famille, qui le soir, dans un bar nommé le Zanzi Bar évidemment, devient enfin Mathilde. La femme qu'il se sent être et qu'il ne peut pas encore être jusqu'à ce qu'il décide de la laisser exister enfin au sein de sa famille, femme, enfant, et au sein aussi de son entreprise. C'est un chemin en plusieurs stations, mais nullement un calvaire que vous nous présentez, plutôt même un changement de sexe heureux. Ressentiez-vous, Léonore de Récondo, le besoin de casser certains stéréotypes en la matière ?
Je me suis pas posé la question comme ça. Je me suis posé une question beaucoup plus simple. Je me suis demandé comment on pouvait vivre quand on n'était pas dans le bon corps. Alors bien sûr, il y a des clichés, il y a des stéréotypes, il y a beaucoup de choses que l'on sait ou que l'on ne sait pas. Mais moi, j'avais vraiment envie de me poser cette question-là. On peut être mal dans sa peau, mais ne pas être juste. Et comment faire pour l'être? Et aussi, à travers la langue et l'écriture, comment l'écrire dans la fiction, justement.
Et ne pas être juste, on reconnaît là aussi un terme. Renvoyant la musique, vous êtes musicienne, vous êtes violoniste,
oui.
Violoniste baroque. Exactement. Bonjour William Marx.
Bonjour.
Ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres classiques, vous êtes spécialiste de la tragédie antique, vous enseignez à Paris-Nanterre et vous étiez venu ici nous parler de votre précédent livre, La haine de la littérature, chez Minuit, l'un des meilleurs livres parus ces derniers temps sur les attaques faites à la littérature, puisque vous y recensiez avec beaucoup d'érudition et un humour tonique les attaques, précisément, dont la littérature a fait l'objet depuis 2500 ans, de Platon à Bourdieu, de Renan, je cite, « Le temps viendra où l'art sera une chose du passé », à C.P. Snow qui, en 1959, triompha en accusant les écrivains d'avoir contribué à rendre Auschwitz possible. C'est aujourd'hui un autre horizon que vous explorez, toujours aux éditions de Minuit, avec votre nouveau livre, Un savoir gay. Il s'agit du désir homosexuel que vous ne voulez absolument pas définir, vous vous insurgez même contre cela, malgré l'étymologie, comme un désir pour le même.
On a dit trop d'horreur sur ce désir du même qui enfermerait l'homosexuel dans une sorte de case. Alors que le mot homosexuel lui-même est un mot qui vient de du vocabulaire de la pathologie, de la médecine, et je refuse absolument ce mot-là. J'emploie facilement le terme hétérosexuel. Pourquoi ne pas mettre les hétérosexuels dans une case et à la place pour les homosexuels employer le mot gay, hein, qui est le mot plus général, plus joyeux. Et que j'orthographie G-A-I, cela me semble extrêmement important.
Oui, alors pourquoi G-A-I? C'est vrai qu'on a, en plus, en français, le G-A-Y était passé totalement dans l'usage.
En fait, le mot français gay, en fait, est le mot d'origine qui est passé en anglais, qui a été ensuite spécialisé en anglais très tôt, dès les années 30, effectivement, avec ce sens homosexuel, et qui est revenu ensuite en France. Mais en anglais, il a encore cette ambiguïté entre gay comme joyeux et gay comme homosexuel. Pourquoi ne pas réacclimater ce mot qui vient de chez nous et en lui gardant effectivement cette ambiguïté de à la fois de joie et puis d'une certaine orientation sexuelle qui n'est pas liée au chagrin ou à la tristesse.
Et la joie, justement cette ambiguïté dont vous parliez, comment a-t-elle été expliquée justement, le fait qu'une sexualité finalement soit colorée par la langue en émotion?
C'est lié sans doute au type de sociabilité homosexuelle qui existait dans les années 20, dans les années 30, au moment des années folles à New York en particulier, et qui fait qu'on a attribué hein, ce terme-là dans les milieux où les gays se retrouvaient. On a cette joie particulière qu'ils manifestaient, sans doute dans ce moment particulier où il y avait une certaine liberté sexuelle et qu'il faut essayer de conserver parmi nous.
Donc c'est pas uniquement un clin d'œil à Nietzsche et au gay savoir.
C'est aussi un clin d'œil à Nietzsche, mais c'est aussi un éloge de la joie.
Bonjour Charles Dantzig.
Bonjour Christophe Nadibio.
Vous étiez venu nous parler ici d'Histoire de l'amour et de la haine, roman sexuel, érudit et politique, dont le sujet n'est pas sans rapport avec le livre de William Marx, puisqu'il était question de raconter l'amour dans un temps où, écriviez-vous, l'esprit de la haine, si contraire à Paris, était entré dans la ville, comme le loup de la chanson, au moment précisément des manifestations contre le mariage pour tous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du dictionnaire égoïste de la littérature française, de l'encyclopédie capricieuse du tout et du rien, et d'autres Coruscants essais. Les auditeurs de France Culture connaissent bien votre voix qu'ils entendent chaque semaine dans l'émission Personnages en personne le dimanche à 15h. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Vous revenez avec un nouveau livre, un nouveau festival Dantzig, publié cet automne chez Grasset, Traité des gestes, où vous vous attachez à répertorier 1001 gestes dans la peinture, dans l'histoire, dans la vie dite courante, dans la vie marchande, dans la vie dormante aussi, pour essayer de dire ce que ces gestes disent de nous. Occasion magique de vous interroger sur l'existence ou non de gestes d'hommes et de gestes de femmes, de gestes nationaux, de gestes universels, de gestes de la politique ou imités de morts qu'on a aimés. Il est en tout cas certain qu'il y a des gestes du désir.
Je voudrais profiter d'être dans votre émission, Christophe, pour dire une chose. J'ai pas mal parlé de ce livre que je n'ai pas eu l'occasion de dire et j'étais au bord de le regretter, donc merci. Je voulais dire que je pense que dans tout livre, il y a un sujet apparent et un sujet réel. Le sujet apparent ne veut pas dire qu'il est faux ni anecdotique, mais le sujet apparent de mon livre et le sujet est évidemment les gestes. Il s'appelle Traité des gestes, il n'est pas mensonger pour ça. Mais je crois que le sujet réel, et après je vous ficherai la paix avec ça, mais je tenais à dire que le sujet réel de mon livre était, je crois, une forme d'autobiographie un peu nouvelle. Voilà. Et donc j'ai essayé d'écrire modestement cette chose vaniteuse qui est une forme d'autobiographie en parlant d'autre chose.
Et sur cette question du désir qui passe par tant de gestes, Charles Dantzig, vous diriez que le désir est d'abord, avant tout, un geste?
Le geste lui-même est probablement une forme de désir. On peut dire que d'une certaine façon, certains gestes sont un inaccomplissement, et si le désir est une forme d'inaccomplissement qui cherche quelque chose, les gestes en sont le premier symbole.
Merci à tous les trois de participer à cette émission autour de la littérature et du désir. Est-ce que nous ne vivons pas une époque bénie pour les romanciers, pour les écrivains, dans la mesure où toutes les formes de désir sont aujourd'hui explorables par la littérature, j'allais dire sans prendre de précautions particulières, alors que dans d'autres époques, cela pouvait vous condamner? Aujourd'hui, Léonore de Récondo, même un héros transgenre comme le vôtre, est plébiscité par des étudiants.
Oui, c'est bien. C'était une très belle surprise. Je pense qu'il y a quelque chose de générationnel, en effet, là dans la transidentité. Moi, j'ai senti en rencontrant cette génération de vingtenaires, donc d'étudiants que je croise assez peu dans ma vie, qu'il y avait quelque chose là d'une identité propre à eux, du désir, à nouveau, d'être soi et de se déterminer. D'abord en étant complètement libre d'être trans, d'être gay, d'être hétéro, d'être ce qu'on veut. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, ma génération, c'était pas ça. J'ai 40 ans. Le début de ma sexualité, c'était les années 90 où il y avait le sida, il y avait quelque chose de très plombé quand même. Et eux, c'est différent. Il y a quelque chose là, peut-être, ils ont eu envie, enfin, une envie vraiment de se définir ou justement de ne pas se définir comme étant une idée et une identité générationnelle.
En tout cas, plus de tabous, William Marx.
Plus tabou dans notre temps particulier, dans le pays qui est le nôtre. Il faudrait voir ailleurs les choses, ce qui se passe. Et ce moment-là, il faut en profiter.
Je parlais de littérature.
La littérature. Mmh. Ce moment-là, il faut en profiter, effectivement. Et c'est pourquoi nous écrivons les uns et les autres les livres que nous écrivons. Mais les choses pourraient changer d'une manière plus ou moins sensible. Je suis très sensible, effectivement, aux dangers que font courir des mouvements qui voudraient revenir en en arrière à un moment d'ordre moral. On voit ce qu'il en est de l'autre côté de l'Atlantique, hein, par exemple, ou dans certains États, des États-Unis. Donc, profitons de ce moment-là de liberté qui nous est donné et qui, du reste, n'est peut-être pas totalement, n'est pas une liberté totale. Hein, c'est, il y a une responsabilité qui est la nôtre en tant qu'écrivain pour parler des choses dont nous ne pouvions pas parler auparavant. Mais je ne suis pas sûr que cela ne va pas faire grincer des dents ici ou là et qu'il ne va pas falloir répondre à ces grincements de dents.
Gardons-nous de l'irénisme. Moi, je pense pas du tout qu'on puisse dire beaucoup plus de choses qu'avant. Je pense qu'on est rentré ici et maintenant et pas aux États-Unis dans une période beaucoup plus régressive et qu'il y a des choses qu'on peut dire. Léonore de Récondo peut raconter l'histoire d'un trans, mais je ne suis pas très sûr que, même si je ne suis pas d'accord avec lui, on pourrait publier Tony Duvert aujourd'hui. Il y a des choses régressives qui se passent. Enfin, on est la proie d'un littéralisme en ce moment, et le littéralisme, c'est contre la littérature.
On va continuer à explorer cette question du désir de la littérature avec vous, Léonore de Récondo. On écoute votre choix musical. D'abord, vous avez choisi un titre de Mélodie Gardot, qui est d'ailleurs très très important, puisque c'est la musique qui sert de déclencheur métamorphique à votre personnage. Le titre, c'est
Who Will Comfort Me.
On écoute.
My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day, love, got a hold on my heart. Me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me?
Mélodie Gardot, le titre Léonore de Récondo.
Who will comfort me?
Voilà, qui est le titre, la musique. Écoute votre personnage, Laurent, quand il est dans sa voiture, devant le Zanzibar, et qu'il devient la femme qu'il se sent être au plus profond de lui. Comment est venu ce titre de Mélodie Gardot dans le roman?
Pour moi, c'était important qu'il y ait une sorte de leitmotiv, comme ça, qui soit une sorte de fil dans le texte. Parce que je pensais qu'à cet endroit-là, dans cette voiture en tout cas, Laurent, Mathilda, Lorraine, ce personnage multiple, ce serait un endroit où elle pourrait se retrouver, Lorraine, où elle serait déjà, et où, grâce à cette musique, à cette solitude faite, il y a une sorte de cocon comme ça, de réconfort. Donc j'ai choisi Mélodie Gardot, parce que je trouve qu'elle a une voix magnifique, que cette chanson est un gospel, que c'était assez juste aussi dans l'état d'esprit de qui peut me réconforter, qui peut être avec moi, c'est une adresse comme ça. Puis je me suis aperçue aussi que Mélodie Gardot, après, avait eu un accident dans sa jeunesse, et puis que la musique l'avait vraiment révélée, enfin qu'il y avait quelque chose dans cette voie-là, dans ce choix-là, qui me semblait juste.
Je rappelle que vous êtes aussi écrivain, mais violoniste baroque. Est-ce que de ce fait, la musique joue un rôle particulier dans l'écriture, dans le fait de choisir certains mots ou pas, ou même peut-être d'en écouter, je ne sais pas.
Alors j'écoute j'écoute pas du tout de musique quand j'écris parce que ça me déconcentre. Aussi parce que j'ai maintenant une sorte d'écoute professionnelle des disques, alors j'entends les points de montage, j'entends des trucs absurdes. Donc non, j'écoute pas. Le silence est très important. Je pense que de toute manière, le silence en musique comme en littérature, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit, qui ouvre l'imaginaire, qui dégage de l'espace. Et dégager de l'espace, ça c'est dans le travail que je fais, moi, dans mon écriture, c'est vraiment ce que je recherche. Mmh. En épurant, enfin, bon, ça, à ma manière, avec mes outils. Donc là, oui, il y a quelque chose. Enfin, moi, mes souvenirs de, je pense que les plus beaux instants dans les concerts, c'est aussi quand il y a une sorte de quand le silence s'installe et quand il y a une communion dans ce silence et qu'on écoute tous le silence. Alors peut-être qu'il faut que la musique soit là avant et après pour qu'on puisse l'entendre, pour le mettre en majesté, ce silence. Donc là, il y a quelque chose, oui, qui est un lien profond en moi entre la musicienne et l'écrivaine.
Deviens ce que tu es pourrait servir d'exergue à votre point cardinal, donc paru chez Sabine Vespizer, qui vient d'obtenir le prix des étudiants France Culture Télérama. Vous y racontez la métamorphose d'un homme en femme, ou plutôt la pleine réalisation de soi, d'une femme dans un corps d'homme, en femme dans un corps de femme. Cette femme, au début de l'histoire, s'appelle Laurent, elle est père de famille, elle vit avec Solange, sa femme, et leurs deux enfants. Elle vit aussi dans le mensonge, parce que Laurent cache en effet à son entourage la présence de Mathilda, la femme qui vit en lui, et qu'il ne révèle que lors de soirées entre travestis au Zanzibar, alors que sa famille le croit au sport. Petit à petit, c'est ce que narre votre roman dans un style très simple, a-t-on l'impression que rien ne résiste finalement à la décision de Laurent. Petit à petit, il entraîne sa famille dans ce changement radical, cardinal, qu'il a décidé de vivre pour devenir pleinement lui-même. C'est aussi, et c'est ce qui m'a frappé, un livre sur le désir pour autrui qui s'éteint en faveur d'un désir pour soi. Il le dit d'ailleurs, Laurent, « Aujourd'hui, mon corps est trop occupé par lui-même pour avoir un quelconque élan vers le tien », il le dit à sa femme. « Je suis en devenir, rien autour de moi ne me définit, ni vocabulaire, ni représentation. Je me trouve dans l'interstice homme-femme, flouté, comme dans mon rêve d'enfant, bientôt légère. Je ne te désire plus, mon amour. » Désir pour l'autre qui s'éteint, a-t-on l'impression, au profit de ce désir pour soi? Vous êtes d'accord avec cette
oui,
analyse?
Oui, c'est un moment, c'est une transition, c'est une transformation, c'est devenir. Donc Lorraine, elle est en devenir. Et là, elle est occupée par ce devenir.
Lorraine étant le nom qu'elle
voilà,
va se Laurent choisir.
Qui est,
voilà,
qui est
Laurent
Lorraine,
devient Lorraine.
Et ce personnage féminin qui surgit, qui est là, ce devenir l'occupe entièrement. Et elle a besoin, je pense aussi, ça veut pas dire que c'est pour toujours, c'est un moment de sa vie, et elle a besoin de toute son énergie pour elle-même, pour devenir elle-même. Et donc il n'y a pas en effet de place à ce moment-là pour l'élan vers l'autre, et aussi ça pose évidemment une question physiologique de désir.
Exactement. Il, elle, on sent quand on vous écoute, d'ailleurs il y a la même impression à la lecture, à la lecture de votre livre, c'est-à-dire cette, non pas hésitation, mais ce tango finalement entre le il et le elle. Quand vous parlez de Laurent qui devient Lorraine, dans la même phrase on peut avoir Laurent et puis la phrase suivante, elle. Il était important pour vous de valser finalement avec ces gens. Vous êtes aperçu que, pas que la langue française était très, très genrée.
Oui, 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 je m'en suis aperçu, ben, je l'ai vécu. Je le savais, puis là je l'ai vécu. Je me suis dit que oui, je voulais qu'on passe du il au elle, évidemment. Dans le roman, il y a un moment où Laurent prend des hormones pour la première fois, et à partir de là, c'est un elle. Laurent elle.
Donc c'est le moment
décisif.
Où, voilà.
Et ensuite, il va y avoir le moment où Lorraine va aller travailler habillée en femme, et donc là, à ce moment-là, on est Lorraine elle. Et c'est vrai que toute la partie un peu centrale du roman où je dis Laurent est belle, Laurent est épuisé, et ce muet français extraordinaire qu'on n'entend pas et qu'on écrit, c'était une expérience très puissante, parce qu'en effet, c'était une idée de départ que j'avais avant d'écrire le roman, puis je me suis retrouvée l'écrivant. Et puis ensuite, le tapant sur mon ordinateur avec toutes ces fautes. Je veux dire, mon ordinateur me corrigeait tout le temps en me disant, mais tout était tout d'un coup souligné de rouge. Et je me suis dit, oui, c'est évidemment, la langue est à l'image de la pensée. On est à un endroit, à un moment, en ce moment, où en France, il y a il et elle, il n'y a pas d'autres possibilités.
Il n'y a pas de genre neutre.
Il n'y a pas de genre neutre.
On est obligé de se déterminer. Je vois William Marx qui fronce.
On nous dit qu'il y a un neutre, mais le neutre n'existe pas.
On nous dit qu'il y a un neutre,
les gens qui veulent absolument que la langue soit pas dominée par les hommes nous disent, mais non, le masculin en réalité est le neutre, pas du tout.
Oui, je suis absolument d'accord. Mais et ce que je trouve extraordinaire, c'est cette incarnation tout d'un coup de la langue, quand le personnage Laurent est belle et se demande, mais si donc je suis indéterminé, si je ne me détermine pas, est-ce que j'existe? Et ça, je trouve que c'était pour moi en tant qu'écrivain très 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 fort, très intéressant d'être là dans les mains, dans le cambouis de la langue.
Il y avait un désir d'écrivain dans le fait de se confronter à cette langue très, très genrée, justement, de pouvoir écrire « Laurent est belle », ça répondait chez vous à quelque chose aussi de nécessaire, de pulsionnel,
Je sais pas, inconsciemment certainement. Quand je me suis lancée dans l'écriture, je pensais pas que ce serait si fort en fait.
Mais d'où est né justement ce personnage de parce que je me souviens d'Amour justement pour lequel vous étiez venu ici dans cette émission, où c'était doublement transgressif puisque il s'agissait d'une bonne qui était mise enceinte par l'homme qui l'employait, qui était un notaire, et qui finalement gardait l'enfant et tombait aussi amoureux et vivait une passion homosexuelle avec la femme de ce notaire, avec la patronne. Il y avait déjà aussi cette question de fusion, transgression, fusion des mêmes sexes. Là, l'idée de parler d'un transgenre aujourd'hui, elle est venue d'où ?
Elle est venue d'une couverture. J'ai vu la couverture d'un magazine. Je pensais pas. Moi, mon idée, c'était d'écrire un roman contemporain parce que je l'avais encore jamais fait et je pensais que c'était important.
Oui, c'est vrai qu'on était en 1908.
Et mes romans précédents, ils se passaient toujours dans le passé. Je voulais écrire aujourd'hui. Donc ça, c'était mon idée. Puis j'avais pas de sujet en tête précis. Et puis j'ai été en vacances et je suis tombée sur un Vanity Fair américain où il y avait Kathleen Jenner en couverture. Je savais pas qui était Kathleen Jenner et je feuillais le magazine, et puis je me rends compte, donc Kathleen Jenner, la couverture, une femme avec une très belle chevelure blonde, très 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 femme dans les clichés, avec un bustier blanc, avec une pose lascive. Enfin, j'ai regardé sans me poser trop de questions, et en parcourant le magazine, je me rends compte que Kathleen était Bruce avant, et que ça avait été un grand sportif, etc. Et là, je me dis, mais c'est fou. Comment c'est possible, à un âge quand même qui, je sais pas, je pense que Bruce devait avoir plus de 50 ans, et père aussi. Ça m'intéressait aussi l'idée de la paternité. Moi, j'avais envie, je crois, d'écrire un livre que mon personnage s'incarne et puisse dire, je suis père et je suis femme. Voilà. Comment on fait pour l'écrire? Comment on fait pour le penser? Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça vient mettre en écho chez les autres?
Et comment on fait pour l'écrire? Il y a eu une part d'enquête?
Bien sûr, je me suis documentée. J'ai lu alors maintenant, outre-Atlantique, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèses, beaucoup de recherches, beaucoup les gender studies sont très...
Il y a le livre de Maggie Nelson qui va sortir d'ailleurs à la rentrée.
Les Argonautes. Et ça, c'est de la non-fiction. Moi, ce que je voulais, c'est-à-dire, je suis pas du tout ni théoricienne du genre, ni historienne, ni tout ça. Et je voulais écrire un roman. Et ça, parce que, à mon avis, l'art et la littérature doivent... c'est une autre manière d'envisager un personnage. C'est une autre manière d'envisager ces grands sujets de société qui
Pourquoi
semblent
par
très...
Par la narration
très... Par le roman, par l'imaginaire, par un personnage fictif. Aussi parce que c'est important que ces personnages prennent vie dans la fiction, qu'ils ne soient pas juste dans un champ de réflexion et d'histoire.
Ce qui est amusant, si je puis dire, c'est que la vie étant variée, c'est que Kathleen Jenner, que vous citez, s'est empressée de rentrer dans les stéréotypes de la domination, puisqu'elle a appelé à voter pour Trump.
Mais oui, c'est fou. Alors, évidemment, heureusement, je n'ai pas écrit écrit un roman sur Kathleen
Laurent, on ne sait pas pour qui vote Laurent. Hein.
Je lui demanderai. Mais, et puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'écrire que cette question de l'identité, elle soit pas du tout dans un univers hollywoodien de la nuit, de tout ça. Non, il fallait que ce soit dans une famille classique.
Oui. Je voudrais qu'on vous écoute lire un passage, justement, où la matière s'invite, justement, dans ce désir d'être celle qu'on était.
Un site sur lequel il a déjà fait des achats lui rappelle l'existence de la soie. En un instant, l'habile forteresse qu'il s'évertue à construire s'effondre, entraînant avec elle arguments, volonté, autoconviction, tout s'efface devant son désir. Désir de toucher, de sentir l'épiderme vibrer. Les jambes de Laurent se mettent à trembler, sa main figée sur la souris ne fait pas disparaître l'image, au contraire, elle l'agrandit, circule sur elle, pixelisant à force de loupe le grain si fin du textile. Et tout à coup, sans pouvoir contrôler son corps, qui se lève, Laurent met son blouson, s'approche d'Estelle, lui dit que le collège vient d'appeler, que Claire est tombée. Il doit partir, marche mécaniquement jusqu'à sa voiture, démarre, se dirige vers le centre commercial, s'y gare, appuie avec frénésie sur le bouton de l'ascenseur du parking qui mène à l'étage de la boutique, suffoque, souffle dans ses mains moites, entre dans le magasin, salue poliment la vendeuse, tout en allant directement vers le portant des culottes en soie. Et lorsque son index frôle le tissu, ne peut réprimer un gémissement de plaisir. Encore et encore il touche, encore et encore il soupire. Puis-je vous aider, monsieur ? Il en achète 3, papier, boîte, emballage superflu, jeté dans la première poubelle. Il s'enferme dans les toilettes, se déshabille fébrilement, arrache l'étiquette avec ses dents. Puis, quand il est complètement nu, enfile la soie, remonte lentement la culotte le long de ses jambes, la plaque contre son ventre. La vague de plaisir qui le submerge secoue tout son corps. Une extase qui le transporte, cœur battant, au centre de sa chair, en son point cardinal, là où Mathilda pousse un cri.
Merci Léonore de Récondo, extrait de Point cardinal, donc terme de navigation hein, qui sert à s'orienter. Il fallait que ça passe par les matières aussi, cette transformation.
Oui, parce que Lorraine, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Et j'ai pensé qu'il fallait qu'il y ait quelque chose, que Laurent puisse toucher d'elle. Sinon, c'est cette image, c'est un ressenti très profond intérieur qui est invisible aux autres. Et le fait de pouvoir toucher Lorraine, c'est la rendre, lui donner vie.
William Marx, je voulais vous poser cette question, non pas sur les matières et sur la soie, mais sur le fait, je demandais à Léonore de Récondo tout à l'heure si ça répondait justement à un désir, même un désir de langue, hein, de se confronter au « il » et au « elle » dans la même phrase. Vous expliquez dans Un savoir gay que ce livre est dangereux à écrire, je vous cite. « Tu sais que ce livre que tu écris te condamne. Tu sais qu'ailleurs on t'emprisonnerait, on te tuerait pour avoir parlé ouvertement de pratiques jugées abominables. Tu sais que ce livre risque de te fermer des portes, de te barrer des frontières, de t'interdire des possibles. Tu y brûleras peut-être tes vaisseaux. C'est précisément pour cette raison que tu devais l'écrire, pour témoigner, pour que l'ennemi se projette en toi, pour qu'il sache au moins à qui il s'attaque plutôt que de se construire un adversaire imaginaire est bien trop facile. L'ennemi, tu lui dis tu. Quel est l'ennemi, William Marx ?
L'ennemi, c'est tous ceux qui pourraient ne pas vouloir accepter ce que je suis ou qui ne pourraient ne pas vouloir accepter que je dise ce que je suis et comment je le suis. Et je ne suis pas le seul à l'être. J'essaie de parler pour toute une communauté ou quel que soit le terme qu'on met derrière. Nous disions tout à l'heure que nous vivions dans un moment et dans un espace de liberté, mais cet espace de liberté, nous sommes toujours en train de le jauger, d'en situer les limites. J'ai la chance de vivre à Paris dans un milieu universitaire extrêmement extrêmement libéral, et j'ai eu la chance de ne jamais souffrir de quelconque homophobie autour de moi, en tout cas rien qui n'ait été explicite. Mais je ne sais absolument pas comment des amis, des collègues, des étudiants vont pouvoir lire un tel livre. J'attends avec un certain trac, je dois dire, j'ai jamais eu autant de trac avant la parution d'un livre, les réactions des gens qui m'entourent, parce que réellement, malgré tout l'espace de liberté dont nous jouissons, nous savons qu'il y a des limites et qu'il faut savoir jusqu'où aller trop loin, comme on dit. Alors j'essaie de déplacer ces limites, mais le risque existe, il est minime, je l'espère. Il est peut-être que je me fais des idées. Le risque existe, peut-être pas en France, mais ailleurs.
On en parle du savoir gay. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi un titre dont vous parlez, d'ailleurs, dans Un savoir gay, Father and Son de Cat Stevens.
Vous écoutez France Culture, Le temps des écrivains, par Christophe Onodibio.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same.
Father and Son de Cat Stevens, c'est le choix musical de William Marx qui publie Un savoir gay aux éditions de Minuit. C'est un titre dont vous parlez beaucoup dans Un savoir gay.
Je le trouve assez emblématique de mon propre rapport à la culture. C'est-à-dire que on entend ici un père, avec la très belle voix de Cat Stevens, un père qui dit à son fils, tu es jeune, tu dois te marier, et son fils lui répond, non, j'ai pas envie de marier, je veux partir au loin. Alors pour Cat Stevens, cette histoire, c'était en fait l'histoire d'un fils révolutionnaire qui voulait faire la révolution. Et moi, évidemment, en tant que gay, j'entends ce titre comme ma propre histoire, celui qui ne veut pas suivre les commandements paternels.
Il y a eu des révolutionnaires gays.
Il y a eu des révolutionnaires. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Enfin, en général, la seconde phase des révolutions, enfin, ça a été le cas, a été une phase assez homophobe, hein, malheureusement. Mais le fait est que j'y vois dans cette chanson le symbole de ce que j'appelle l'étrangement d'un gay par rapport à la culture.
L'étrangement, et que vous mettez en italique.
Oui, oui. Alors je reprends, c'est comme pour gay, hein, je reprends ce mot à l'anglais, estrangement, qui est un mot français en fait, hein, et je trouve que c'est bien aussi de réacclimater ces mots qui nous appartiennent. Et l'étrangement, c'est ce fait que nous vivons dans une société, dans une culture qui magnifie l'hétérosexualité, qui ne parle que de cela en fait, en particulier la culture populaire, la culture de la chanson, et que moi, en tant que gay, je pense que mon cas n'est pas unique, eh bien, je dois réinvestir symboliquement, réinterpréter les chansons. Et donc, cette chanson de Father and Son, je la vois comme un... Je peux l'entendre comme un message, en fait, de révolte contre le commandement hétérosexuel dominant. Mais c'est le cas pour une très grande partie de la culture, et en particulier de la culture populaire, que je dois resymboliser un peu de la même manière qui était celle des chrétiens lorsqu'ils voulaient resymboliser la culture païenne et y voir une annonce du Christ. Et ben pour moi, cette culture hétérosexuelle, j'essaie de retrouver des petites images, des petits détails qui me permettent d'apprivoiser, hein, cette culture hétérosexuelle à ma propre orientation.
Charles Antigue.
On a toujours fait ça, moi j'appelle ça l'appropriation subversive. Enfin, je ne sais pas, les chansons de France Gall, Laisse tomber les filles, que tous les hétéros dansent avec beaucoup de plaisir, Laisse tomber les filles, on se l'approprie et on a toujours fait ça. C'est une forme de subversion de ce que William Marx appelle l'hétéronorme.
Oui, je pense que c'est tout à fait général et c'est une...
C'est ça l'ennemi, c'est l'hétéronorme, c'est le regard hétérosexuel sur le monde.
C'est un ennemi qui ne se connaît pas nécessairement d'abord comme ennemi, mais en tout cas, c'est un obstacle que... devant lequel se trouve tout jeune gay, à savoir comment se construire dans une société qui n'est pas faite pour lui et qui n'a pas prévu son existence. Et il faut se trouver une place, et une place dans la culture.
Donc ce savoir gay, hein, un savoir gay chez Minuit, clin d'œil à Nietzsche, mais à plein d'autres choses, est un essai... dans lequel il s'agit de parler du désir homosexuel, de montrer aussi que le désir conditionne aussi un rapport au monde. C'est aussi un exercice d'introspection, vous en parliez, William Marx. D'ailleurs, vous utilisez le « tu », hein, le vocatif, pour parler de la situation d'énonciation. C'est la deuxième personne du singulier. On vous suit dans vos réflexions, parfois polémiques, hein, sur la façon dont le regard hétérosexuel a façonné l'univers. Ce sont des réflexions qui sont présentées à la manière d'un abécédaire, où il est question de l'époque, il est question du sida, il est question de Platon, il est question de l'art. Et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus un instant. Vous évoquez l'existence d'un cabinet secret personnel, où il y a par exemple le David de Michel-Ange, l'Héraclès Archer de Bourdelle, ou les forges de Vulcain de Velasquez. Un tableau qui représente une drôle d'annonciation, puisque c'est Apollon qui vient annoncer à Vulcain que son épouse Vénus le trompe avec Mars. Ce tableau, vous le regardez d'un œil pas tout à fait kantien. Je vous cite William Marx. Ici, au contraire, tu te retrouves devant un monde non pas de cyclopes, ce qui eût été plus conforme à la légende, mais d'hommes et d'hommes à la tache, presque nus, un simple linge jeté sur la ceinture. L'air de rien, Velasquez transgresse tous les codes, le torse de Vulcain va jusqu'à se hérisser de quelques poils follets, contraire à toutes les représentations classiques du masculin, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un dieu. Dans cet atelier où tu crois respirer la sueur et où brille dans un coin l'unique sensualité, un tant soit peu féminine, d'une cruche en céramique, etc., 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 tu te laisses moins fasciner par le corps pâle et adolescent du dieu solaire, irradiant un charme juvénile un peu trop limpide, que par celui plus hâlé, plus modelé et plus viril du deuxième forgeron à partir de la droite, avec sa mine tellement sympathique, bouche bée, barbe de 3 jours, cheveux en broussailles, le type de garçon finalement assez ordinaire, mais non pas dénué de séduction simple et franche, que tu aimerais croiser en sortant du musée, dans le métro ou sur une plage. Et vous le zoomez, si je puis dire, il y a le tableau de Velasquez, et vous zoomez sur ce personnage. Alors, moi je veux bien William Marx, mais pourquoi alors, dans le même essai, quand il s'agit de la Vénus de Milo, pourquoi reprocher aux hétérosexuels le même regard, finalement, sexuellement gourmand ? Tu te croyais au milieu d'un public d'esthètes et tu découvres qu'en chacun d'eux sommeille un voyeur. Tu te croyais au Louvre et tu te retrouves au Moulin Rouge. Finalement, c'est le même regard.
C'est le même regard. Tout le monde peut tomber, c'est ce que je dis, tout le monde peut tomber amoureux d'un personnage de tableau et en faire l'objet de son désir. Là où il y a le problème, c'est lorsqu'on essaie de cacher ce désir qui est à la source de l'émotion esthétique. Or, c'est exactement ce qui se passe avec la Vénus de Milo. Je ne reproche pas aux hétérosexuels d'avoir du désir pour la Vénus de Milo et d'attendre que son manteau tombe et dévoile son sexe. Ce que je reproche, et en particulier...
Ou ses hanches, ses jambes...
Voilà, parce qu'effectivement, on se demande, il me semble que l'attente du public du Louvre, c'est précisément de savoir quand est-ce que ce manteau va enfin tomber, puisque aucun bras ne retient le manteau de la Vénus de Milo. Ce que je reproche à une certaine culture hétérosexuelle dominante, et en particulier représentée par Kant, c'est de dire que cette émotion esthétique que l'on a devant la Vénus de Milo... Eh bien, c'est une émotion dénuée de tout intérêt personnel et en particulier de tout désir de type
sexuel.
Mais
est-ce que c'est pas le même désir finalement depuis Galatée et Pygmalion? On sait que dans chaque statue se cache un être vivant, si on le désire assez.
Totalement d'accord. Je pense que la tradition antique a souvent dit, et depuis Platon, et vous citiez le mythe de Galatée ou de Pygmalion, qu'effectivement, le désir esthétique est un désir fondamentalement sexuel. Mais il y a eu un moment dans l'histoire de l'esthétique occidentale qui a essayé de nier cela. Et de ce point de vue-là, en niant la sexualité qui est à l'origine de notre plaisir esthétique, eh bien, on empêche les autres sexualités d'avoir leur propre canon esthétique. Et c'est ce que j'essaie de défendre à l'intérieur même du livre.
Il y a une très très grande différence, c'est que c'est dans la représentation de l'objet du désir. C'est-à-dire que dans la représentation du corps féminin, on a toujours montré les seins, les sexes, etc. Tandis que l'objet réprouvé, honni, interdit pendant des siècles jusqu'aux années 50 du siècle dernier, c'était le pénis qui n'était jamais représenté ou alors recouvert. Quand un artiste gay comme Michel-Ange osait les représenter, c'est l'affreux Arétin qui était un pornographe qui est allé le dénoncer au pape et on avait recouvert, comme on sait, les peintures de Michel-Ange de feuilles de vigne qui allaient à l'hétérosexualité pour le coup dominante.
Et il est vrai et c'est pour la raison pour laquelle j'ai eu très jeune cet intérêt pour l'antiquité classique. Parce que l'antiquité classique, c'était vraiment le domaine où la nudité masculine avait droit de cité. Et je suis devenu antiquisant précisément parce qu'il y avait cette possibilité de l'expression d'un désir, l'expression d'un corps qui autrement était interdit ailleurs.
Alors il y a un scoop dans ce livre, enfin un quasi-scoop dans Un savoir gay. Ça concerne le christianisme, le début du christianisme et un évangile secret de Marc, en tout cas si l'on en croit Clément d'Alexandrie. Je voudrais qu'on vous écoute lire un extrait d'un savoir gay, William Marx.
Tu en étais là de tes réflexions jusqu'à ce que tu tombes sur l'une des pages les plus fascinantes et les plus mystérieuses de la littérature chrétienne primitive, l'évangile secret de Marc. À en croire Clément d'Alexandrie, Marc avait écrit un autre évangile secret, celui-là à destination des seuls initiés. Clément cite deux extraits de ce texte dont l'église d'Alexandrie conservait un exemplaire. Dans l'un d'eux, il est question d'un jeune homme que Jésus ressuscite à l'instar du Lazare de l'évangile de Jean ou de la Belle au bois dormant. Je cite. Jésus s'approcha et fit rouler la pierre qui fermait le tombeau. Il entra aussitôt là où était le jeune homme, tendit la main et l'éveilla en lui saisissant la main. Le jeune homme l'aima du premier regard et se mit à le supplier de vivre avec lui. Sortant du tombeau, ils allèrent à la maison du jeune homme, car il était riche. Le sixième jour, Jésus lui donna un ordre. Le soir venu, le jeune homme vient auprès de lui, nu sous un simple drap. Et il demeura avec lui durant cette nuit-là, car Jésus lui enseignait le mystère du royaume de Dieu. Fin de citation. Te voici bien attrapé avec ton roman à l'eau de rose de tout à l'heure, trop timide que tu étais. Sous la plume de Marc l'évangéliste, la scène se charge d'un érotisme autrement plus puissant. Il existait aussi, d'après Clément, une version de cet évangile où le jeune homme et Jésus passent la nuit ensemble, nus l'un et l'autre. Version naturellement mensongère, selon le même Clément. Or, elle ne fait après tout qu'expliciter un peu plus la teneur érotique de la relation entre le jeune homme et Jésus, déjà présente dans le texte original, sans en trahir le fond.
Dimension homo-érotique extrêmement puissante, mais très vite étouffée, finalement, dans le christianisme naissant. Qu'est-ce que c'est que cette piste digne de Da Vinci Code? D'ailleurs, vous le citez, le Da Vinci Code, aux éditions de Minuit, Dan Brown.
Évidemment, mais il suffit de lire les évangiles de manière neutre, disons, objective. Et si l'on regarde les signes que donne Jésus d'affection vis-à-vis des gens qui l'entourent, il y en a beaucoup plus et très fort vis-à-vis des hommes qui l'entourent, des jeunes hommes qui l'entourent, que vis-à-vis des femmes. Et si le Da Vinci Code de Dan Brown est un roman, c'est présentement qu'il est éminemment romanesque. C'est-à-dire qu'il est totalement romanesque d'imaginer que
oui,
Jésus...
Il aurait étouffé, dites-vous, finalement, on se serait servi le succès de Dan Brown, masquerait, qui était une affection entre Jésus-Christ et Marie-Madeleine, donc hétéro-érotique, finalement, masquerait la dimension homo-érotique de Jésus.
Le succès de Dan Brown est lié au désir profond de l'essentiel de la population chrétienne dans le monde qui est hétérosexuel, de s'imaginer un Jésus hétérosexuel. Et c'est cela qui a fait le succès de ce roman qui n'est pas très bon par ailleurs. Alors que nous avons sous les yeux un évangile secret, nous avons même les évangiles eux-mêmes, nous avons un évangile secret qui existe, qui est disponible dans les meilleures éditions des écrits apocryphes chrétiens, qui nous dit clairement ce qu'il
en
était
Pléiade,
de Jésus. C'est dans la Pléiade, ça a été... C'est un texte qui existe, qui est un manuscrit qui a été retrouvé dans les années 50, qui nous dit clairement qu'il y a un homoérotisme et qui est déjà très présent dans les évangiles, mais là qui le met à jour. Et de ce texte-là, personne n'a rien fait.
Jesus il me semble is queer.
Charles Danzig. Ouais.
Je vais me faire un t-shirt Jesus is queer.
Oui, vous connaissiez Léonore de Recondo, cet évangile secret et cette dimension?
Oui, j'en avais un. Je l'ai pas lu, je dois dire. Mais,
oui. Ça vous donne envie maintenant.
Il y a deux pages.
Ouais. Voilà, il y a deux pages. Charles Lanzig, il y a des gestes religieux hein, dans ce traité des gestes. Vous parliez même des gestuaires médiévaux. Il y avait tout un code au Moyen-Âge pour que les moines qui avaient fait vœu de silence puissent quand même parler, et donc avec des gestes.
C'est la preuve définitive que toute religion est un mensonge, puisque ces ordres qui étaient supposés être des ordres silencieux et absolument silencieux, on leur inventait des gestes pour parler. Donc, pour contrevenir à la règle même qui s'était fixée, et il y a des gestuaires du Moyen-Âge très très précis où certains abbés ou moines donnaient des types de gestes pour signifier à leurs frères dans les monastères qu'ils ne devaient pas parler ce qu'ils voulaient dire quand même.
Nouveau festival Danzig, hein, qui est ce traité des gestes, donc un livre ciselé dans la forme éclatée mais très organisée d'ailleurs que vous affectionnez et qui des gestes des bébés aux gestes efféminés, des gestes des gros cons, je vous cite, aux gestes des pieds, des gestes d'écrivains aux gestes de l'abandon, des gestes des femmes druses fabriquant de la pâte à pita, aux nouveaux gestes liés à nos addictions technologiques comme celui de slide to unlock, le geste du doigt de gauche à droite pour déverrouiller les appareils, et des gestes enfin de la sexualité. Vous nous emmenez dans une drôle d'herméneutique poétique et romanesque. Que disent ces gestes que tout le monde fait et que personne ne semble vraiment regarder? Et c'est un peu comme si, observant les corps agissants, Charles Danzig, vous mettiez vous-même l'esprit en mouvement et fabriquiez de nouveaux gestes, finalement, littéraires. C'est assez piquant, on croise Socrate et Mick Jagger, Jacqueline Kennedy, Balzac, Oscar Wilde, Donald Trump, qui agite ses petites mains de poupée tueuse. Pourquoi lister et organiser ces gestes méthodiquement, poétiquement, certes, mais quand même anatomiquement?
Eh bien, parce que précisément, ce sont des choses que tout le monde fait, auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup. C'est-à-dire que quand on parle des gestes, très souvent, quand je dis j'écris un livre sur les gestes, les gens font « ah oui » en agitant les mains, parce que l'idée automatique est geste égale main. Or, si, comme je le propose, un geste est un mouvement conscient, beaucoup de parties du corps expriment des gestes et font des gestes. Par exemple, si on prend la partie la plus inerte de notre corps, probablement, qui sont les hanches, qui ne peuvent en soi faire aucun mouvement, les hanches peuvent faire pourtant des gestes, et j'en donne l'exemple avec Sophia Loren dans un film de Vittorio De Sica, où on la voit dans un long travelling marcher en se déhanchant. Et ce déhanchement veut dire deux choses. Ce déhanchement veut dire que elle fait un geste sensuel pour exciter les hommes qui la regardent, et en même temps, l'exagération de son déhanchement est telle qu'elle veut dire « homme qui me draguait et que j'allume par mon déhanchement, je me moque de vous en exagérant mon geste ». Donc, une partie aussi inerte que ça, que les hanches dans notre corps, peut exprimer du sens.
Alors, il y a beaucoup de gestes du désir hein, dans ce livre. Il y a les gestes avec la langue, les gestes du baiser. D'ailleurs, on lira. J'ai choisi le passage du geste du baiser, Charles Lanzig. Vous ne m'en voulez pas?
Au contraire.
Bon, au contraire. Des gestes avec les cheveux, des gestes de la sexualité. Il y a aussi des gestes avec le front. On pense jamais au front, en fait. Et il y a un assez beau passage, un dialogue entre Farouche et Épée, qui sont deux de vos personnages, qui montre que ce désir aussi peut s'exprimer au sens propre par des gestes avec le front.
Mais oui, des plissements de front, des haussements de sourcils, tout ça sont des modes d'expression. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que les romanciers dans la fiction, les romanciers sont souvent rudimentaires. Pour qualifier leurs personnages, ils les qualifient par des paroles.
Vous êtes d'accord, Léonore de Recondo, comme je me tourne vers elle, parce que voilà.
Non, je ne suis pas du tout d'accord.
Je ne généralise pas absolument, mais en général, les romanciers se servent à peu près exclusivement de la parole, car le roman est une extension du théâtre. Et donc, les paroles servent à exprimer ce que sont les personnages, mais on oublie souvent les gestes, ou alors, c'est des gestes assez clichés, assez rudimentaires, et voilà, les sourcils, le front, les hanches, encore une fois, les orteils peuvent exprimer des choses. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu de romancier nous disant que, par exemple, dans une rencontre entre un homme et une femme et une femme, ou un homme et un homme, en se parlant, pour se séduire, en même temps, l'un pouvait être suffisamment nerveux pour avoir dans ses chaussures, comme moi en ce moment, cher Christophe, les orteils qui tapotent, et ces orteils sont un autre moment de sa vie ou qui veulent dire autre chose que sa bouche dit. C'est une chose intéressante.
Que veulent dire vos orteils qui
là que je suis un peu nerveux.
Qui tapotent, c'est ça, vous avez dit?
Ben, j'ai les orteils dans mes chaussures qui martèlent un petit peu à l'intérieur. Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est qu'un geste? Un mouvement conscient tout en étant peut-être davantage, écrivez-vous.
Oui, j'essaie de donner une définition. Je pense qu'un écrivain aussi, après tout, ça s'occupe du langage et je propose une définition du geste. Et effectivement, le geste est un mouvement conscient et en même temps, il veut dire, ce mouvement veut dire autre chose. Je pense qu'à la fin de tout, un geste est un, outre d'être de l'expression, ce que j'ai voulu par ce livre, c'est sortir de l'idée de sens à tout prix, d'une idée excessivement française où il faut absolument que toute chose ait une raison et une raison résonante. Et j'ai en particulier essayé de sortir de la sémiologie qui en soi est effectivement très intéressante, qui est incontestable, mais qui est limitée. C'est-à-dire qu'un geste n'est pas que l'expression refoulée ou cachée d'un sens. Un geste peut être autre chose et on n'a pas à être enfermé dans un sens perpétuel. Et je pense qu'à la fin de tout, le geste est un rapport au temps différent.
Mais inconscient, un mouvement conscient quand même.
Le geste est un mouvement.
Le plissement du sourcil dont on parlait tout à l'heure, c'est conscient. C'est-à-dire que vous allez lever le sourcil pour me manifester une forme de courroux ou de,
ben, là
ou
où
de plaisir ou...
Là où la chose est intéressante, c'est que ces gestes pour être... D'abord, les gestes n'existent que parce qu'il y a un autre. C'est une chose qui est intéressante, c'est que je pense que les êtres absolument solitaires ne font pas de gestes. Les stylites en haut de leur colonne, en haut du mont Sinaï, ne doivent faire absolument aucun geste, comme dans les maisons de retraite où les pauvres personnes très âgées sont assises et ne bougent absolument plus. On fait des gestes parce qu'il y a des autres. Après, l'entente de l'interprétation des gestes est assez ambiguë parce que si je hausse un sourcil, vous pouvez l'entendre différemment que mon sourcil a voulu, que ce que mon sourcil a voulu dire. Donc l'expression du geste doit être n'est pas universelle.
C'est une sismographie, hein, farouche, épais, dit à Farouche. On pourrait dessiner la géographie de chaque homme, et Farouche répond, avec sismographie pour les gestes. Il y a quelque chose de tellurique dans le geste.
Mais oui, parce que je pense ça d'ailleurs. On pourrait faire. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un roman qui serait l'histoire d'un homme à partir d'une part des objets qu'il possède, uniquement la description d'un appartement, et en complément par les gestes qu'il fait. Et
vous l'aviez fait un petit peu quand même dans l'histoire de l'amour et de la haine. Il y avait un personnage que vous décriviez presque uniquement par ses gestes. Un geste dit autant qu'une parole plus.
Ça peut dire oui. C'était dans ce roman ce personnage d'une femme qui était très belle et qui était très empêchée par sa beauté parce que je pense que la beauté est une chose terrible qui sépare du monde, tout en attirant les autres pour des raisons tout à fait libidineuses souvent. Et cette femme gênée par sa beauté, je me suis dit qu'est-ce que peut faire une femme excessivement belle et gênée par sa beauté, sans le dire et sans avoir l'imposition du romancier qui dit « elle pensait ci ou elle pensait ça ». Et donc, j'ai, par déduction ou par induction, je me suis dit « elle est gênée parce qu'elle est très belle, elle a les cheveux longs, donc elle penche la tête, elle manipule ses cheveux, elle se cache par un rideau de cheveux ». Et souvent, les femmes très belles sont gênées.
Ça me fait penser à un de vos personnages, Léonore de Récondo. Un moment, Laurent est avec Solange dans un restaurant ou un bar et arrive une rousse absolument sublime qui ne parle pas, qui s'assoit au bar, qui boit une bière d'ailleurs. Et Laurent ne la comprend, ne la saisit que par ses gestes et ses gestes disent absolument tout, en tout cas font écho à son trouble à lui. C'est uniquement, elle est décrite par geste.
Oui, c'est l'incarnation. Mmh. Et puis je pense qu'en effet, le geste, c'est l'incarnation d'une pensée, d'un désir. Ça nous échappe. C'est ça qui est merveilleux aussi. Il y a des gestes qui échappent, qui veulent dire autre chose que les mots.
Oui, oui, naturellement, il y a des gestes qui nous échappent, il y a des gestes qui sont animaux, il y a des gestes qui sont végétaux. Christophe Naudibio parlait des bébés dans sa présentation, et ça, c'est une chose qui est excessivement frappante. Quand on voit ce qu'est un geste de nouveau-né dans son berceau, un enfant très très jeune, c'est-à-dire il a les deux bras et les deux jambes écartés, ouverts vers le monde, car un enfant ne sait pas que la condition première de la vie est la méfiance, alors il est confiant, il est ouvert vers le monde. Et un bébé, quel que soit d'ailleurs son sexe, quand il ouvre la main, ouvre très très lentement la main, mais excessivement lentement, et puis sa main tourne un petit peu sur le côté. Et ce geste est exactement le geste d'une étoile, j'allais dire le geste, le mouvement d'une étoile de mer sur le sable. Qu'est-ce qui me dit que ce geste n'est pas le souvenir très ancien de l'époque où nous n'étions pas encore des vertébrés, qui ne vient pas d'une mémoire très ancienne?
Vous pourriez me le refaire un peu, refaites-moi ça, Charles Lancey.
Le geste comme ça,
oui, geste du bébé.
Le geste du bébé est très simple, je le fais plus rapidement que lui d'ailleurs, et puis il ouvre très 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 lentement les doigts et il il tourne un peu la main comme ça.
Et ça, ça serait le geste de l'étoile de mer.
L'étoile de mer est comme ça au fond de la mer. Elle déploie très très lentement ses, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas ses doigts, ses pattes. Et elle tourne pour avancer. Elle se retourne exactement comme ça et elle avance de cette façon-là.
Et donc, ça serait un souvenir. Certains gestes sont des souvenirs.
Je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a des souvenirs inconscients. Moi, je raconte dans mon livre que j'ai un ami qui, quand il est dubitatif, au lieu de dire comme moi qui suis un peu impétueux, tu dis n'importe quoi, ça n'est pas vrai, etc. Lui a un geste que je qualifie de tulipe, c'est-à-dire qu'il se met tout d'un coup à pencher très 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 lentement la tête comme ça, comme une tulipe dans un vase. Qu'est-ce qui me dit que ça n'est pas aussi un geste végétal?
Les chiens font cela.
Eh bien voilà.
Ouais. Donc quand ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ils regardent sur le côté.
Pour conclure cette émission, on va vous écouter lire un passage de ce traité des gestes, Charles Danzig. J'ai choisi évidemment le embrasser, qui est un des gestes du désir d'ailleurs. Parce que sur le désir, vous dites qu'il y a à la fois les gestes de la fourmi et le geste du léopard. C'est-à-dire quand on fait l'amour, il y a à la fois un tâtonnement, une méticulosité de fourmi et une impétuosité de fauve. Il ne commande pas.
Dans les années 70, des féministes insolentes ont fait, à l'Arc de Triomphe de Paris, un dépôt de gerbe à la femme du soldat inconnu. Oui, sans doute. Et qu'il ait pu être gay, elles ne l'ont pas envisagé. Les soldats gays sont triplement courageux. Résister à l'ennemi et aux blagues grasses des copains, et sans rien pour leur consolation, quand Marilyn vient chanter pour les troupes. Quelle est la tristesse de ces garçons qui rentrent chez eux sans avoir le droit d'embrasser leur fiancée et, au son de la fanfare locale. Les adolescents éperdus de sexe se donnent parfois un baiser à eux-mêmes dans un miroir. Chez les adultes, il me semble que c'est surtout une imagination de cinéaste. On la trouve dans un court-métrage mis en ligne par le New York Times. Placé devant un miroir, James Franco marmonne muettement quelques mots gênés à son reflet, puis sourit, s'approche du miroir et se donne un baiser du bout des lèvres. Comme il recule, on voit sur le miroir une trace de buée qui est la vie même. Franco pose l'avant-bras sur le miroir et se décide enfin, il s'embrasse à pleine bouche. C'est le film le plus amusamment sensuel que j'ai vu. Le baiser le plus comiquement méprisable que je connaisse est signalé en passant dans les mémoires de Nordling, le consul de Suède à Paris, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Auberg, chef de la SS et de la police, fuit la ville en août 44 avec des gardes du corps et sa cuisinière, grosse femme qui, dans la voiture farcie de provisions comme une tourte, embrasse les bocaux.
Merci Charles Danzig. C'est un extrait de Traité des gestes, le chapitre Embrasser. Merci à tous les trois. On va se quitter d'ailleurs, Charles Danzig, avec votre choix musical parfait pour une émission sur le désir. I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones. On apprend d'ailleurs dans votre livre que Mick Jagger fait sans le savoir le geste des derniers princes baroques.
Oui, c'était un geste du poing sur la hanche, comme ça, du poing retourné sur la hanche avec le poignet cassé. D'ailleurs, qui est doublement intéressant, car c'est un geste qui est aujourd'hui considéré comme efféminé, et là aussi il y aurait beaucoup à dire, alors que quand il était représenté, mettons par Van Dyck, c'était un geste de guerrier, de roi, de conquérant, et considéré comme tout à fait viril, et donc ce geste servait à représenter en quelque sorte la fierté du maître et du chef, qui a été utilisé dans toute la peinture baroque et classique, et puis il a disparu des représentations au 19e siècle, et ce geste qui avait complètement disparu réapparaît en la personne de Mick Jagger, qui s'est mis à refaire ça alors qu'il ne vient pas d'une famille aristocratique, que son grand-père n'était pas maréchal, etc., etc.
Maintenant, il est anobli.
Maintenant, il est anobli.
Voilà, grâce peut-être à ce geste, Charles Danzig. D'ailleurs, il y a la reproduction de la photo de Mick Jagger. Il y a beaucoup d'images. Hein. Comme toujours, hein, vous aimez aussi associer les images au texte, ce qui est en soi un beau geste, Charles Danzig. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de vos ouvrages, William Marx, Un savoir gay. C'est aux éditions de Minuit. Merci à vous.
Merci.
Léonore de Recondo, Point Cardinal, c'est chez Sabine Vespizer et c'est le prix des étudiants France Culture Télérama de cette année. Il sera remis en janvier, mais en tout cas c'est officiel, nous pouvons le dire. Et Traité des gestes de Charles Danzig chez Grasset. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Ghislaine David à la réalisation, Yanis Djoudad à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr cette heure sur les gestes du désir, peut-être le désir des gestes, avec Léonore de Recondo, Charles Danzig et William Marx. Et maintenant, le choix de Charles Danzig, c'est évidemment les Rolling Stones.